Bonjour messieurs, bienvenue dans cette table ronde, donc comme dit Benjamin Carré, pas si ronde que ça, consacrée à la représentation de la machine. Nous attendons Chris Foss qui devrait avoir un avis à nous donner là-dessus. On va diffuser quelques images, disons, d'une manière un petit peu aléatoire en fond d'écran et ça nous permettra d'avoir quelques commentaires à faire sur cette machine qui nous a soit fait rêver, soit angoissé, soit soumise, soit aidée. Reste à savoir effectivement quelle est la nature même de cette machine. Est-ce que, à l'instar par exemple de René Belletto, la machine devient possessive et devient un réel problème pour l'être humain lorsqu'elle remplace l'être humain? Est-ce qu'elle a été uniquement un support en premier en partant de l'outil simplement? Ou est-ce que aujourd'hui elle devient, elle a été massive, donc sur l'aspect par exemple la machine imposante, je pense que Chris Foss aura quelques idées là-dessus. Et aujourd'hui, comment représenter la machine, par exemple, lorsque l'on voit que l'outil, la machine disparaît au profit de la miniaturisation ou même de l'aspect virtuel, de la virtualité, disons, absolue de tout ce qui pouvait être représenté en tant que machine. Alors nous avons donc Benjamin Carré à ma gauche. Bonjour. Suivi de Denis Bajram et Johan Elliott, qui va nous donner son point de vue, je dirais, d'auteur vernien. Donc en attendant Chris Foss, nous allons peut-être effectivement évoquer les premières représentations de la machine, et donc peut-être commençant par ces grandes manifestations, de déballage mécanique et scientifique, qui étaient les expositions universelles. Donc, Johan Elliott.
Oui, ça marche. Alors, les expositions, les grandes expositions universelles, donc qui sont apparues à peu près au milieu du 19e siècle dans le monde, parce qu'il y en avait un petit peu partout. Pour ma part, j'ai surtout été influencé par celle plus emblématique de 1889 en France, qui est celle dans laquelle, voilà, où on a inauguré la Tour Eiffel, et dans laquelle on trouvait la grande galerie des machines, le titre tombe bien, qui réunissait bien un petit peu tout ce que l'époque comptait de machines avant-gardistes. Alors on est sur la fin du siècle des grandes révolutions industrielles. Alors je n'ai plus vraiment tout en détail tout ce qu'on trouvait comme machine exposée à ce moment-là, mais je sais que l'esthétique même de l'exposition, des bâtiments, de cette grande galerie, est à la base, par exemple, de mon premier livre, La Lune seule le sait, puisqu'il se passe à cette époque-là, et que dans ce livre, je m'amuse à mêler la technologie, les machines de l'époque, à une technologie extraterrestre. Voilà. Mais le design général de cette industrie d'époque a constitué pour moi les images de base de ce roman.
Et est-ce que c'est vraiment une représentation, par exemple, réinterprétant la machine réelle, ou est-ce que, par exemple, dans ton écriture, tu t'es fié quand même à rendre les choses les plus crédibles possibles, comme pourrait le faire, par exemple, en représentation l'illustrateur Manchu, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, qui devrait arriver. Ce souci de crédibilité rend la machine entre guillemets plus réelle dans la science-fiction, ou est-ce qu'on n'en a pas besoin? Est-ce qu'on en a besoin ou pas, finalement, de cette crédibilité?
Alors, je vais faire une réponse de Normand, c'est un petit peu des deux, parce que je suis resté le plus fidèle possible à la réalité de ces machines dans mes descriptions de tous les passages terrestres, effectivement, puisque je pense de toute façon que c'était déjà tellement extraordinaire, ces bâtiments, ce qui avait été construit à l'époque. Enfin, j'ai pas besoin d'ajouter de l'imaginaire supplémentaire dessus. Je trouve que c'était déjà tellement magnifique. D'ailleurs, c'est une honte qu'on les ait détruites ensuite. On a gardé que la Tour Eiffel, on a détruit tout le reste, qui était assez magnifique. Mais ensuite, très vite, bon, j'y ai joint mon imaginaire pour décrire des scènes extraterrestres, enfin, qui se passent sur la Lune. Là, j'ai mélangé la technologie de l'époque.
On va accueillir Chris Foss. Et on va lui demander de se déplacer sur le siège. Messieurs, dames, donc Chris Foss. Bienvenue Chris, donc pour parler de ces machines. Et il me semble que la machine est quelque chose que tu connais dans ton œuvre, puisque sans vouloir, ni restreindre, ni enlever les autres parties de ton œuvre gigantesque, on peut quand même dire que la représentation de la machine dans ton œuvre est quelque chose qui est très particulière d'une part et qui surtout a permis de diffuser ton œuvre et de la faire connaître au grand public, puisque effectivement quand on demande aujourd'hui qu'est-ce que l'on retient de Chris Foss, il apparaît souvent quand on met en avant tes vaisseaux spatiaux, la manière que tu as de créer cette machine crédible et surtout aussi cette interprétation avec l'apport de la couleur dans la machine, par exemple. Est-ce que tu pourrais nous parler peut-être de tes premières influences? Quelles sont les premières machines qui t'ont donné envie de dessiner des machines?
C'est-à-dire que c'est quoi qui est arrivé qui m'a donné la grande influence, c'est ça?
Par exemple, oui.
C'est très bizarre parce que avant, je n'ai jamais réfléchi pourquoi j'ai fait un dessin. J'ai juste fait le dessin. Comme tout à l'heure, j'ai demandé à un monsieur, j'ai fait un dessin là-bas, et j'ai pensé, oh, ça c'est pas mal. Mais j'ai fait le dessin, je n'ai pas pensé pourquoi j'ai fait ce dessin, et tout comme ça. Donc, maintenant, parce que plusieurs des gens me demandent c'est quoi l'influence, les trucs comme ça, je suis obligé de réfléchir un petit peu. Et je crois qu'on est influencé quand on est très, très, très jeune. Vers 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça c'est le moment qu'on est tellement influencé. Et j'étais devenu de les îles de Manche et je me souviens bien, on est venu chez un oncle de notre famille et le monsieur, il fait le bricolage, mais il est le chef d'une grande société qui fait le bricolage et ils ont un bâtiment plein avec les vieux machines pour travailler sur le bois, pour travailler sur le béton, les trucs comme ça, mais tout est organisé, tout est pour l'énergie. Ils ont une immense boiler, un truc en vapeur. C'est une machine en vapeur qui fait le. Toutes les machines sont branchées de cette immense machine-là. Peut-être que ce n'est pas tellement immense, mais j'ai eu 3 ans, 4 ans. Et parce que j'étais très excité par cette machine-là, des fois, mon oncle, il a fait le feu et il va commencer cette immense machine. Mais c'était grande. Et plusieurs années après, j'ai trouvé le même système en France, à Sawmill. J'ai trouvé une ancienne usine avec une grande machine comme ça. Et bien sûr, tout est détruit maintenant, tout est parti. Et des fois, j'ai fait une petite balade en Jersey pour trouver la maison, pour trouver le bâtiment où ils ont eu toutes les machines comme ça. Et bien sûr, depuis cette époque-là, tous les trains, les locomotives vapeur, les trucs comme ça. Et je crois que c'est grâce à ça qu'on a l'influence comme ça.
Dans ce que tu racontes, effectivement, on sent l'influence de l'environnement, en fait. Le créateur, oui. La création, voilà. Ne va pas sortir ex nihilo de nulle part et sans avoir été influencé par la machine présente dans son environnement immédiat.
C'est pareil pour tout le monde. Vous êtes influencé par l'âge où vous habitez. Donc, les gens maintenant, par exemple, toutes les gosses maintenant, je suis fasciné. Je suis dans un aéroport et toutes les petites, ils ont les ordinateurs, ils ont les tablettes, ils ont les machines comme ça. Ils regardent que ça. Et j'étais chez des amis, ils ont une télévision, ils ont de petites, genre, ils ont 2 ans, 3 ans, et ils sont complètement fixés sur l'écran de la télévision. Ils ont le même yeux qu'à la fin de 2001, vous avez le bébé.
Alors, par exemple, pour demander un petit peu aussi à Denis Bajram, par exemple, qui a énormément travaillé ses designs de vaisseaux, par exemple, d'une manière très effilée, comment, Denis, est-ce que, d'après toi, on passe, par exemple, d'une période type Star Trek avec des choses assez bigarrées, à des vaisseaux type de John McCall, par exemple, sur 2001, et de cette, aujourd'hui, ce design très épuré et que ce design que l'on retrouve dans ta bande dessinée Universal War, par exemple.
2001, c'est un cas d'école hein, dans le design, puisque Kubrick a demandé à des gens de l'aérospatiale de travailler avec lui sur le film. Jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'on faisait qu'on représentait des machines dans la SF, c'était souvent des artistes qui le faisaient, et avec un certain laisser-aller un peu fantasmagorique. On était dans Flash Gordon beaucoup plus que dans une prospective scientifique, même à la Jules Verne, comme peut y avoir un 50 années ou un siècle plus tôt. Ce qui se passe avec 2001, c'est qu'il a vraiment envie de faire un récit scientifique. Donc il s'entoure de scientifiques pour le scénario, avec Clark, qui est aussi scientifique, en plus d'être auteur de SF. Mais sur le design, il va travailler. C'est même pas de la consultation. Les gens sont sur les plateaux et travaillent avec lui, avec des designers, avec des gens qui travaillent dans l'aérospatiale. Donc de fait, on se retrouve dans 2001, l'Odyssée de l'espace, en 66, 67, il commence le tournage. On est avant la conquête de la Lune. On se retrouve avec des designs qui sont déjà parfaitement justes scientifiquement, même si on peut y voir quelques archaïsmes esthétiques, mais il n'y a quasiment pas d'esthétique, justement. L'idée, c'est que c'est des fonctions. Donc le vaisseau Discovery, il est constitué avec son réacteur à l'arrière nucléaire, donc comme il est radioactif, on est obligé de l'éloigner le plus possible du quartier d'habitation. Donc quartier d'habitation. Alors quartier d'habitation est rond, car à l'intérieur, on veut avoir une roue pour générer de la gravité, pour que les astronautes ne soient pas entièrement sans gravité, donc il faut que c'est une forme ronde, donc l'ensemble devient rond, et ainsi de suite. Tout est lié à la fonctionnalité intérieure. Et puis à la fin, finalement, les designers du film, ils peignent tout ça en blanc, parce que dans l'espace, on peint en blanc ou en matière brillante pour éviter de trop chauffer. Donc voilà, c'est aussi bête que ça. Alors le résultat, qui devrait être profondément ennuyeux, comme si on était en train de visiter une raffinerie ou ce genre de choses, et en même temps extrêmement esthétique. C'est là où il y a ce film a une réussite majeure. Et alors c'est là où ce film, évidemment, change tout. Car si les designs de Star Wars sont comme ils sont, c'est qu'il y a eu 2000 ans d'essai de l'espace. Dans Star Wars, même si finalement le film est un film d'heroic fantasy, quasiment, le méchant empereur, les chevaliers, la princesse à sauver, les designs, eux, se veulent crédibles, même si quand on y réfléchit deux secondes, il n'y a rien qui marche. Mais les aspects sont des aspects de machines rouillées. Alors, ils regardent beaucoup les designs des années de la Seconde Guerre mondiale. On retrouve les hublots des bombardiers, etc. Mais tout ça est fait avec une volonté de crédibilité, comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc on sent vraiment qu'il y a un point de bascule dans la représentation, et on est tous, je pense, aujourd'hui, des héritiers de 2001, l'Odyssée de l'espace. Enfin, il faudrait demander à Chris, mais qui a vraiment été un changement complet dans la représentation de la machine, du vaisseau, même de l'ordinateur, quand on y pense, dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Avant, un ordinateur, en général, ou c'est un robot, alors on se retrouve avec des robots avec des crânes en verre et des pinces qui font clac-clac, et des boutons qui clignotent devant. Où les ordinateurs sont toujours représentés comme des machines avec des lumières qui clignotent, en effet, etc. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, il le dématérialise quasiment. On voit des écrans avec des schémas, on ne sait pas très bien. Puis il y a un œil, donc une lumière, une seule lumière. Et puis il y a une voix qui n'est même pas « Bonjour, je m'appelle Dave », mais qui parle avec un accent british parfait, qui est complètement, à l'époque, à l'opposé des représentations qu'on a de la machine. Donc voilà, vraiment, c'est vraiment un film qui est extraordinairement en rupture sur la représentation de tout type de machine. Vous remarquerez que le début du film, pour finir, commence avec la fameuse scène où les hommes préhistoriques se battent. Et la transition entre cette époque-là et l'ère de l'espace se passe avec le lancement d'un tibia, je crois, enfin d'un os, qui tourne et qui devient finalement une station spatiale tournant, ou un vaisseau, je crois, un vaisseau, pardon. Ça veut bien dire que, quelque part, on est bien dans un problème de représentation de l'outil et de la machine, puisque finalement, dans cette scène-là, on a l'impression que c'est le moment où un premier humain invente un outil, et qu'en inventant l'outil, il invente déjà la machine, l'intelligence artificielle et tout ce qui va se passer dans la suite du film. Voilà.
Et ce désir de crédibilité dont tu parlais dans 2001, par exemple, tu l'as encore aujourd'hui dans ton inspiration, ou est-ce que tu te laisses aller, je dirais, simplement graphiquement, juste pour l'amour de la forme ou de la courbe, par exemple, lorsque tu les dessines?
Alors, au tout début, moi, j'étais un gosse de Goldorak, hein, donc des robots géants japonais, qui sont en termes de crédibilité un peu aléatoires. Et il y a vraiment eu, je sais pas, quand j'avais, à partir de 10, 12 ans, entre autres les couvertures que faisait Chris à l'époque sur les bouquins que j'ai lus, la découverte qu'on pouvait avoir, cette manière de représenter beaucoup plus réaliste les choses. Et moi, je suis vraiment un descendant de cette manière de faire. Alors, c'est passé par Ron Cobb, qui est un décorateur de cinéma, qui a fait entre autres les vaisseaux des vaisseaux dans Aliens, qui a bossé beaucoup avec Cameron, qui a fait la station de sous-marine de Abyss, par exemple, des choses comme ça. Et puis, chez Cameron, j'ai compris qu'il était resté sur la leçon de 2001. La fonction crée le design. C'est-à-dire que la méthode en fait du design réel dans la vraie vie, c'est ce que font les designers quand ils font des voitures, ils pensent aux fonctions et après ils les mettent en forme. Donc moi je suis vraiment resté là-dessus. Quand je fais un vaisseau, quand je fais une machine, je pense à sa fonction avant de la dessiner. Je vais pas dire que je suis très radical là-dessus parce que en bande dessinée on est des menteurs. On fait des images arrêtées, donc on peut en permanence finalement laisser le cerveau des lecteurs remplir les trous entre les images. Par exemple, j'ai fait un choix radical, il y a un de mes vaisseaux, la face avant et la face arrière ne sont pas compatibles. Il y a des gens en université technologique qui ont voulu construire un modèle pour passer en soufflerie et je leur ai dit vous allez en baver. Et en effet, quand ils ont commencé à le modéliser, ils se sont rendus compte que les deux côtés n'étaient pas compatibles. Et c'était un acte volontaire. J'ai fait un joli arrière à mon vaisseau, j'ai fait un joli avant à mon vaisseau, j'ai fait un profil intermédiaire. Et fondamentalement, le lecteur, il me fait confiance. Il ne va pas chercher dans sa tête à remodéliser le truc en 3D, à le faire tourner. Et mon but, c'est qu'à l'arrière, il émette les signaux qui sont c'est une machine puissante qui vole bien, etc. Qu'à l'avant, il émette des signaux, c'est une machine moderne. Je combine des signaux. Donc en bande dessinée, on n'est pas du tout dans des problématiques de cinéma. On n'est pas obligé de faire des choses réelles. On doit faire des choses vraies. C'est-à-dire qui sonne vrai, qui donne l'impression d'être vrai. Et je pense qu'en illustration, c'est les mêmes choix qu'on peut faire à des moments de ne pas se soucier de réalité. On est beaucoup plus à la recherche de la vérité, quelque chose qui cogne fort, quelque chose qui dit du sens de manière très forte. Donc c'est vraiment une représentation de la machine qui est à 50% dans la volonté de traduire les fonctions, comme ça, d'être très honnête avec les fonctions de la machine, et puis à 50% qui est de mentir profondément pour que tout ça ait de l'allure. Quoi. Voilà.
Alors, sur ce désir de réalisme du design de vaisseaux et autres, c'est vrai qu'il y a en science-fiction vraiment pléthore d'images réalistes, en fait, et puis de photoréalisme. Je pense que ça doit être un des derniers domaines où l'aérographe, par exemple, a été utilisé pour l'hyperréalisme. Par exemple, là, on voit les maquettes, par exemple, sur l'exposition Bourgeon. François Bourgeon réalise les maquettes en volume pour pouvoir, disons, tourner autour, appréhender le volume d'une manière réaliste et cohérente.
Comme Hergé fait en son temps pour Tintin.
Voilà, est-ce que vous arrivez à créer un univers de cette manière-là en vous aidant d'artefacts extérieurs comme ça, ou c'est uniquement le design en fait qui vous porte, ou plutôt que le désir de réalisme? La Manchu serait le bienvenu dans son désir de réalisme, parce qu'effectivement quand il s'aperçoit qu'une tuyère ne fonctionne pas sur un vaisseau même dessiné, il hurle. Donc ça aurait été pas mal d'avoir son avis là-dessus. Mais par exemple Benjamin, j'ai l'impression que dans ton travail tu as aussi un souci plus important que la fonction. Il y a aussi une esthétique, tu as une gamme chromatique qui est très particulière, je trouve, par rapport à ce que l'on trouve habituellement, plus sombre peut-être, un petit peu plus... qui colle bien, par exemple, aux images steampunk que l'on peut voir sur l'écran. Mais est-ce que donc c'est ce réalisme ou l'esthétique, à quel moment le réalisme s'arrête pour laisser la place à l'esthétique, simplement au design, à la beauté de la ligne?
Ben, en fait, je ne suis pas... Je ne suis pas tant que ça juste dans l'esthétique et la fonction de côté. Au contraire, je crois que, en fait, je me sens assez proche de Denis, si ce n'est que je crois que quand j'attaque un design de vaisseau ou de robot ou de machine, je me confronte à trois possibilités qui est effectivement la fonction qui crée la forme, typiquement les vieilles locomotives à vapeur ou les premières en tout cas. Le tuyau, il est là pour faire fonctionner. Il y a le réservoir et tout. C'est vraiment la fonction qui crée la forme. Les vaisseaux, pareil. Même dans Star Wars, parce que la fonction, elle peut être scénaristique. Elle n'est pas forcément, réelle, scientifique. Dans Star Wars, l'ouverture du du premier film, quand le vaisseau rebelle il se fait poursuivre par le croiseur. Si on regarde ce vaisseau rebelle, bon, bah, à l'avant, il y a une cabine pour le piloter, à l'arrière, il y a des réacteurs pour le faire avancer. C'est vraiment la représentation qu'on avait. Tu as un radar, des canons au milieu pour se défendre. Et si tu t'approches un petit peu, tu vois des petites cabines d'éjection qui sont sur son flanc. Et en fait, ces cabines, elles sont là uniquement parce qu'à un moment, dans le film, les deux droïdes vont prendre une cabine de secours pour s'éjecter. Donc là, c'est la fonction scénaristique qui entre en jeu, parce qu'aucun autre vaisseau Star Wars va avoir des cabines apparentes, alors qu'on nous dit qu'ils en ont, mais bon. Et donc, je suis vraiment partagé entre ces trois choix, entre la fonction qui crée la forme, parce que la machine, ses tuyaux, ses plaques, tout ça, c'est ce qu'on pourrait, enfin, ce que j'appelle le non-design, et en réalité c'en est, mais c'est un design qui est super intéressant pour un artiste parce qu'il se surprend lui-même. Tu fais ton assemblage de formes en fonction de leur fonction, et tu as un résultat que tu n'as pas forcément anticipé, et c'est génial parce que tu es spectateur de ton propre travail. Tu as l'intermédiaire, je pense par exemple, on parlait de Jules Verne et aux dérivés modernes, le steampunk, où tu as la fonction qui est bien là, tu as les engrenages, la fonction est là, et après, par-dessus, on va y mettre de la fioriture, enfin, du fer forgé, tout ça. Donc, c'est de la fonction décorée. Et après, il y a l'autre possibilité, ce que tu évoquais pour moi, c'est de choisir une forme. Et ensuite on s'en fiche un petit peu de la fonction. On la case ou on la dissimule. Et on choisit. Typiquement, le Nautilus ressemble à un animal. À la base, quand le Nautilus a été créé, la forme a été choisie. Et ensuite, bah oui, il a une hélice à l'arrière, il a des hublots au-dessus, il a son éperon à l'avant. Mais du coup, la forme vient en premier. Chris explore les trois possibilités dans le travail de surtout sur ces vaisseaux. On a vraiment des vaisseaux type 2001, type Star Wars, c'est-à-dire tout gris avec des plaques et des tuyaux. Et à l'inverse, on a des vaisseaux, c'est de la typographie en 3D, enfin, c'est ultra moderne. Je repense à des jeux auxquels j'ai joué récemment, qui sont aux jeux Homeworld. Je ne sais pas si dans la salle des gens y ont joué, mais c'est des jeux vidéo qui sont un vrai hommage à ton travail. Je ne sais pas si Chris, tu connais le jeu Homeworld, si tu as vu des images de ça. Un jeu vidéo qui s'appelle Homeworld. Il faudra que je te montre ça. Bon, bref, en tout cas, j'ai vraiment, moi, quand j'attaque une image, bon, je suis illustrateur en même temps. Je suis pas comme Denis, par exemple, qui doit raconter des histoires et donc qui doit avoir des objets cohérents, qui doit tenir tout le long de l'histoire. Moi, je suis illustrateur. J'ai une image à faire, une image qui doit, comment dire, il n'y a pas que le design qui compte, il y a la composition, il y a la mise en scène, et cette image, elle doit se suffire elle-même, c'est comme une affiche. Et donc, effectivement, je passe outre, je ne m'embarrasse pas d'un vaisseau que je sais que de toute façon, je n'aurai pas à redessiner sous d'autres angles, ou dans d'autres circonstances. Et donc, oui, cette notion de composition fait que l'esthétique peut passer avant l'image.
Et alors, tu parlais de l'anecdote des droïdes, disons, devant s'échapper sur des navettes individuelles, je dirais, et qui auraient modifié le design. Alors, pour les trois, disons, qui travaillent à base de scénarios, c'est-à-dire sur ta bande dessinée, celle de Denis, par exemple, ou même les romans de Joanne Elliott, est-ce que dans le courant, disons, de l'évolution de l'histoire, vous êtes revenu en arrière, disons, pour rajouter un élément, que ce soit esthétique pour le dessin ou un élément important, disons, dans le design de la machine, simplement parce qu'il y a eu une surprise scénaristique qui est arrivée et qui nécessitait ce retour en arrière, ce redesign, disons, de la machine. Denis, par exemple ou,
Bah, moi, non. Mais faut dire que j'écris moi-même les histoires, donc, et que je suis sur une série que j'ai écrite en 1997, intégralement, donc on peut pas dire que j'ai d'énormes surprises quand je travaille sur mes histoires en ce moment. Non, j'ai jamais repris un design. J'ai toujours pensé les designs pour l'histoire, mais comme je connaissais toujours très bien l'histoire que j'allais raconter, j'ai jamais eu ce genre de mauvaise surprise. Après, il peut y avoir des trucs où on se retrouve à avoir mis le gars à gauche alors qu'il doit aller à droite, hein, mais ça, c'est des problèmes techniques qu'on a pas seulement avec les machines, mais simplement avec un bâtiment. Enfin, voilà, c'est un problème de mise en scène, quoi. Mais modifier un engin pour l'adapter à une histoire, ça, j'ai jamais fait.
Et Joanne ? Non, ma problématique est différente. Vu que mes seuls outils, ce sont les mots, je n'ai pas besoin, à un moment donné, d'avoir une représentation complète de la machine. Donc, c'est un petit bout par-ci, un petit bout par-là, selon les scènes, selon effectivement ce que demande le scénario. Et puis bon, je vais me permettre d'ajouter, j'ai moi-même une conception très baroque de la science et de la technique, donc je ne me suis pas posé la question, pour ces livres-là, est-ce que finalement ça fonctionne ou pas ? Je me doute bien que ça ne fonctionnerait pas vraiment, ce que je décris, mais ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'était la manière dont le récit progressait. En fait.
J'ai une question naïve là-dessus. Avant de décrire un vaisseau, est-ce qu'il y a une image mentale en tête ?
Ça dépend. Pardon. Pour le cas du vaisseau de la Lune, seul le sait, qui est un hybride de vaisseau vivant et de technologie à base d'acier de la révolution industrielle, c'est plusieurs images, alors les images de la réalité de la galerie des machines, etc., dont je parlais tout à l'heure, et certaines images de cinéma qui sont venues se greffer là-dessus, un petit peu d'Alien, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Et donc c'est un mélange de diverses images. Je vais pas mal puiser dans des films, en fait, certaines esthétiques que j'adapte ensuite. Voilà.
Mais souvent, il y a, pour le travail d'illustrateur, on se retrouve confronté à un souci d'interprétation ou de réinterprétation parce que l'auteur n'a pas forcément pensé au design, justement. Ou alors, le design est désuet. Je sais pas quel exemple. Je pense, tiens, tu prends Asimov, Hyperion, le Grinch. Il est décrit comme des lames chromées, un enchevêtrement de lames chromées. Et juste si on s'en tient à cette description, ou même ou dans d'autres romans, vous êtes dans John Verley, où c'est que du chrome partout sur le corps, ce sont des designs qui passent difficilement aujourd'hui, qui étaient très à la mode au début des années 80, mais qui nécessitent une réinterprétation, une actualisation pour coller au goût d'aujourd'hui. J'avais autre chose en tête, mais ça y est, je suis perdu.
Moi, je pense que Lovecraft, par exemple, ça pourrait être un bon exemple concernant l'inadéquation entre la description littéraire et les représentations graphiques, parce que si on s'en tient aux descriptions littéraires...
Non, mais pas forcément. Surtout en science-fiction, par exemple, aussi, ce qu'il faut voir, c'est que tout n'est pas visuel. Tout n'est pas visuel. Certaines machines sont des concepts. Regarde Doctor Who, le TARDIS. Mais le TARDIS, c'est un concept. Ce qui fait la force de ce truc-là, c'est le concept. Parce qu'extérieurement, c'est une cabine, et intérieurement, c'est immense. Mais finalement, pour un artiste, tu as juste une cabine à dessiner. Et donc ça, c'est des points difficiles pour la retranscription graphique.
Hein. Johan ? Oui, je voulais juste ajouter, moi, je suis toujours surpris, et de manière générale, très agréablement, quand l'illustrateur de mes romans, enfin, Benjamin en illustré quelques-uns, mais me propose sa vision, effectivement, de ce que j'ai décrit, parfois de façon très succincte, ici et là. Effectivement, c'est jamais ce que j'avais en tête, c'est toujours mieux que ce que j'avais en tête. Voilà.
C'est gentil.
Mais c'est vrai.
Ça pourrait être tentant d'écrire un roman en demandant des images avant ?
Ah. Baser le scénario du roman sur des images, tu veux dire, fournies par l'illustrateur. Oui. Ça pourrait être effectivement un exercice assez intéressant, qui serait plus cadré par rapport à la liberté que je m'octroie d'habitude, mais pourquoi pas.
Oui. Mais ça doit exister. Hein. Oui. Je pense qu'il y a des romanciers qui ont flashé sur un tableau et qui va leur inspirer plein de choses. Donc, l'influence, est à double sens.
Alors récemment, moi, j'ai eu une expérience qui est différente de la mienne en tant que scénariste, parce que j'ai scénarisé un livre qui s'appelle « Espérance mort » avec Valérie Mangin, et l'illustrateur de bande dessinée est quelqu'un qui travaille énormément avec la 3D et la photo. Et on a conçu avec lui, on lui a décrit les besoins scénaristiques du vaisseau, et il a fait ce vaisseau en 3D qu'il a modélisé jusqu'au dernier boulon. Donc on s'est retrouvé avec un travail plus proche de celui qu'on aurait eu au cinéma. Et c'était vraiment très intéressant, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'on avait modifié des choses à cause de la modélisation et du travail qu'il a fait sur le vaisseau. On s'est rendu compte qu'il y avait que le vaisseau apportait des fonctionnalités, des rapports entre les personnages différents de ce qu'on avait pensé. Et je me souviens très bien qu'en écrivant, on se rendait compte que cet objet existant, qu'on pouvait faire tourner, nous influençait dans la manière de raconter l'histoire.
Donc, c'est parfait quand il y a cette alchimie, hein. C'est ce qu'il y a de mieux.
Et voilà. Et donc, il y avait un petit côté, c'était un peu l'aventure intérieure dans la mort. Donc, je vous venais de l'aventure intérieure sur ce vaisseau qui est miniaturisé, qui termine dans un corps humain et où ils font un petit voyage. On a vu la même idée, mais d'envoyer un vaisseau dans la mort. Bon, je sais, c'est assez compliqué comme ça. Et un vaisseau très réaliste, donc on voulait une histoire comme ça, très, très plan-plan. Quoi. Les gars, ils mettent leur casque, ils vont dans la mort. Quoi.
Donc c'était vraiment intéressant et je me suis dit que moi qui n'avais jamais travaillé, alors mes vaisseaux, moi je les invente au fur et à mesure de l'histoire. J'arrive, je fais ah zut, là, tiens, il y a une flotte d'attaque avec des destroyers lourds, j'ai pas de destroyers lourds, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais un destroyer lourd sur la première case. Alors au moment où je le fais sur la première case, il faut que je me dise, tu vas t'en servir pendant encore peut-être 18 hommes, donc fais attention, fais un truc à peu près correct, autrement tu vas vraiment avoir honte de toi. Et mais donc à ce moment-là, il y a un moment où d'hyper-concentration, où la matinée, ou voire la journée de travail, va être sur cette case-là, parce que c'est à ce moment-là que j'invente un vaisseau capable de servir pendant encore 7, 8, 10, 15 tomes. Voilà.
Alors sur la représentation de la machine et sur l'aspect, je dirais, dramatique, je dirais du ressort scénaristique, parce que Denis, quand même, sur cet aspect-là dramatique, par l'intervention de la machine ou de la technologie, t'es plutôt pas mal dans le genre, parce que je crois que la division de la planète en deux, on avait rarement osé au niveau scénario, d'une manière...
Mon but est de tout détruire.
Voilà, mais c'est ça. Et, sur cette représentation, disons, dramatique, est-ce que c'est plus tentant, effectivement, de faire une machine, entre guillemets, qui soit passée de l'outil à l'oppresseur, simplement d'un point de vue scénaristique, ou est-ce que ça sert réellement d'exutoire, je dirais, à une espèce d'angoisse réelle comme on en lit encore de temps en temps des articles sur l'emploi supplanté par les robots, on en voit encore actuellement, c'est un petit peu fou quand on tombe sur ce type d'article, mais il y en a encore qui sortent. On a vu le robot Roméo par exemple l'heure précédente, une armée de robots Roméo, est-ce que ça va forcément être angoissant, ou est-ce qu'on va simplement se dire OK, par exemple, les robots vont nous piquer nos emplois, ou est-ce que les robots vont nous permettre de partir à la plage plus souvent? Donc c'est quand même deux points de vue différents. Est-ce que vous, c'est l'aspect dramatique qui vous sert sur les scénarios et même sur les images? Parce qu'on a l'impression, par exemple, que Chris Foss, dans ses représentations du vaisseau spatial, par exemple, ou de la machine, l'image prend souvent, soudain plus de puissance lorsqu'il met une machine détruisant un objet plutôt que simplement la machine l'évitant tranquillement dans l'espace. Quoi.
Moi, je vais répondre. c'est super intéressant que tu parles de robot parce qu'on ne l'a pas évoqué pour l'instant. On parlait de véhicule surtout. Et le robot, c'est une machine personnage. La machine devient un personnage. C'est qui crée l'angoisse dont tu parles. Après, on a les deux. Hein. On a les deux. On a le personnage auquel on s'identifie, le personnage qui fait fantasmer et le personnage qui fait peur, comme tous les personnages humains ou autres. Moi, par exemple, Denis disait qu'il était la génération Goldorak, moi aussi. Sauf que je ne le percevais pas comme une machine, je le percevais comme un personnage. Tout à l'heure, tu me demandais quelle est la machine qui m'a le plus impressionné, la première. Moi, c'était le vaisseau d'Albator, qui était même période aussi, mais pour le coup, là, c'était une machine. C'était que une machine. Je sais pas, toi, Denis.
Non, le robot, c'est l'éternel dialogue entre les droïdes de Star Wars et Terminator. Hein. Donc les robots sympathiques et qui aident le héros, lui sauvent la vie plein de fois, et éventuellement ridicules. Et puis à l'inverse, le robot qui détruit. Donc on est des générations qui sont constituées autour toujours entre cette dialectique entre le méchant et le gentil robot, je pense. Hein. Goldorak, c'était un gentil robot, mais finalement il y avait des méchants robots autour de lui, hein, donc c'était quand même très ambigu. Moi, j'ai pas de rapport comme ça avec le robot ou avec la machine ou avec l'intelligence artificielle qui soit des rapports à penser que c'est du bon ou du mauvais côté. Ce sera ce qu'on en fera, ce sera ce qu'on leur apprendra. J'ai pas l'impression une seconde que la science me menace. Elle me sauve plus la vie qu'elle me menace au quotidien. Donc
oui, mais du point de vue représentation graphique ou scénaristique, il est quand même peut-être plus intéressant de jouer sur ce côté dramatique, par exemple, soit Johan dans tes romans ou Chris dans ses images, par exemple.
Oui, c'est ce que j'ai dit. D'un point de vue purement scénaristique, pour le boulot, c'est évidemment toujours plus intéressant d'aller vers la catastrophe, d'aller vers le... Donc, de ce côté-là, je me place clairement du côté du Terminator contre les autres machines, parce que, voilà, pour faire progresser une histoire, c'est formidable. L'idée que la machine se retourne, bon, c'est une idée qui est vieille comme la science-fiction, mais ça reste le meilleur moteur scénaristique pour...
Non, mais il n'est pas récent, de toute façon. Le robot humanoïde, en tant qu'imitation de nous, est par essence flippante. Qu'il soit gentil ou méchant robot, il y a quelque chose de bizarre.
C'est pas normal, oui. C'est pas naturel. Donc, oui.
Chris, par exemple, tu préfères travailler sur des mises en scène et des scènes, disons, dramatiques au niveau de tes compositions, au niveau des vaisseaux spatiaux ou des machines, par exemple. Ça t'intéresse bien plus de représenter une explosion ou une destruction ou simplement un vol stationnaire, par exemple? Qu'est-ce qui t'amuse le plus quand tu dessines? À part les finus, je veux dire.
Ça dépend de la situation. J'ai fait plusieurs de sujets et des fois, par exemple, j'ai les anciens designs qui sont, voilà, ce design-là, c'est très calme, c'est que le vaisseau, et voilà, et ça c'est plus vivant comme ça. Et des fois, ça dépend de la situation. J'aime beaucoup de faire vraiment un paysage dans le ciel avec une situation très calme. Et des autres fois, pourquoi pas, un peu de violence, des explosions, des trucs comme ça. Et ça dépend du goût, si vous voulez. Avant, bien sûr, quand j'ai fait les couvertures, on est obligé de suivre un petit peu, pas beaucoup, le chemin de le bouquin. Mais on n'a pas respecté les idées de l'auteur. Mais des fois, on doit mettre quelque chose qui est un petit peu sympa de le sujet. Et voilà, ça, c'est une situation un petit peu plus calme. Et ça, c'est les cités qui roulent. Donc, chaque sujet, il donne l'ambiance. Si vous avez quelque chose avant qui est un peu violent, vous pouvez faire un fond calme. Et des autres fois, ça marche avec juste un vaisseau dans une situation très calme. Et voilà.
Oui, le côté dramatique peut être amené juste par la lumière, par des ombres,
oui,
portées,
la lumière,
par des choses comme ça.
Ça, c'est toujours très important. C'est la lumière. Et vous avez me demandé tout à l'heure, avant, c'est quoi l'inspiration, les trucs comme ça. Et bien sûr, on fait, quand on est plus jeune, on ne fait pas une analyse. Mais maintenant, je suis en train de réfléchir. Et bien sûr, 2001, c'était une immense choc, si vous voulez, parce que en 2001, vous avez soit ces lumières ou soit ces pensées. Et peut-être parce que je suis devenu de les îles de Manche, on a une lumière très particulière là-bas. C'est très, très fort, la lumière. Et peut-être ça, c'était une très grande influence parce que la lumière, c'est très important pour moi. Les ombres, les surfaces qui reflètent la lumière, les autres surfaces qui sont très foncées. Et si vous voulez, c'est un goût automatique. Voilà.
Alors, vu qu'il nous reste un petit quart d'heure avant de rendre l'antenne, on dira, est-ce que on va, si vous avez des questions au niveau du public, n'hésitez pas, parce que bon, vous allez retrouver les invités, disons, sur le festival et dans le courant d'autres tables rondes. Mais si vous avez pour l'instant des questions, n'hésitez pas à lever la main, on vous passera un micro. Mais en attendant, on va continuer doucement. Alors, il y a une question, là, je crois. Mais, ah, c'est où sont les toilettes, c'est ça? Sur l'évolution, moi, de cette esthétique, on parle de 2001, l'esthétique blanche, hein, McCall par exemple arrive au niveau du cinéma, influence un petit peu tout le monde. Aujourd'hui, on se balade avec des téléphones portables, avec des tablettes, avec ce type de matérialisation, je dirais minimum, du support machine, de LED. Tout le monde a vu les petits trucs sur YouTube assez rigolos, où avant il y avait le téléphone, il y avait le jeu, il y avait, le bureau était rempli d'objets. Là, aujourd'hui, on n'a plus qu'un seul objet qui réunira toutes ces fonctions-là. Est-ce que, là, c'est juste par rapport à une question, par exemple, pour Johan, par exemple, ou autre, c'est l'avènement du steampunk, par exemple. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'intrigue un petit peu, l'avènement du steampunk. Avec ce déballage esthétique qui en fait son succès, avant tout. Je pense que du point de vue esthétique, l'esthétique du steampunk est quand même à son importance dans le succès de ce genre littéraire. Comme, par exemple, on pourrait trouver la même justification au succès du peintre Hans Rudolf Giger, par exemple, sur cet aspect baroque, sur cet aspect biomécanique, pour reprendre un de ces termes, par exemple. L'avènement du steampunk en relation, quand on le met en relation avec l'évolution des objets aujourd'hui, aujourd'hui c'est dématérialisé, on est des objets plats et blancs ou des écrans tactiles, est-ce que ça aurait pu être un désir finalement de se raccrocher à de la matière, de rajouter de la matière pour qu'on puisse l'appréhender, parce que ce qui est immatériel nous fait peut-être un petit peu peur, comme le cloud par exemple. Est-ce que le steampunk pourrait s'expliquer un petit peu, entre guillemets, pour ça?
C'est une relecture, j'employais le mot tout à l'heure, c'est une relecture baroque quelque part dans l'esthétique des objets qui sont devenus le courant aujourd'hui, effectivement, où tout à l'heure Benjamin disait, où déjà à l'époque, Jules Verne rajoutait du fer forgé, des volutes et ceci, cela pour faire plus joli, pour finalement le steampunk, c'est aller jusqu'au bout de cette logique, c'est à partir d'un objet qui, dans la réalité, serait effectivement plat ou très léger, en faire quelque chose de lourd et de surchargé.
Tu es en train de nous dire que le steampunk, c'est de l'ASF avec le style nouille de Guimard, c'est ça?
Peut-être, oui.
Non, il n'a pas dit ça.
Est-ce que son succès viendrait d'une réaction finalement à cet aplatissement, je ne sais pas comment dire, de l'esthétique courante aujourd'hui? Peut-être. Là, j'avoue que j'ai pas de réponse précise sur la question.
Je pense que steampunk vient avant tout du succès d'un courant littéraire qui est l'Uchronie, qui est aussi.
Oui, mais l'Uchronie toute seule, ça aurait pu être juste Amélie Poulain, quoi. Là, on a une espèce de surenchère, une surenchère esthétique.
Il me semble qu'aujourd'hui, le steampunk est plus vivant en dehors de la littérature, dans les mouvements, aux costumes.
Oui, c'est pour ça que je parle de l'esthétique.
C'est donc bien l'esthétique qui prime, à mon sens, sur le. Oui, mais pourquoi ?
Je me suis trouvé récemment face au problème, parce que dans la suite d'Universal War One, je me suis trouvé avec des gens qui n'ont même plus de tablettes, ils ont des implants. Donc on ne voit plus la technologie, elle disparaît complètement. Ils parlent entre eux, en gros c'est la télépathie, ils ont accès à un réseau d'informations par la pensée, donc en gros ils savent tout. Ils ne savent rien, parce que heureusement ça reste des humains, donc même quand on sait tout, on ne sait rien. Mais fondamentalement, je me retrouvais une dématérialisation complète de la technologie, à tel point que je me retrouve dans une civilisation futuriste qui de fait commence à ressembler à une vieille civilisation de magiciens. C'est-à-dire que les gens, et j'ai volontairement fait que les gens recommencent à porter des vêtements un peu enfants, des robes, des choses comme ça, des choses qui sont beaucoup plus esthétiques, parce que de fait, ils n'ont plus.
Vers l'Antiquité, en fait.
Oui, un retour vers l'Antiquité, voilà, tout à fait. Et ils n'ont plus de technologie à afficher. C'est-à-dire que nous, finalement, la technologie, l'esthétique d'après-guerre est entièrement technologique, par exemple. C'est la voiture, c'est l'avion, avant c'était la machine à vapeur, etc. C'était la technologie qui nourrissait toute l'esthétique. Même en art, le futurisme par exemple, c'est un mouvement de peinture qui arrive à peu près en même temps que le cubisme, est entièrement orienté vers le problème de la vitesse. Parce qu'en fait, ils sont obsédés par l'arrivée des voitures et des trains. Quoi. Et là, on arrive à une époque en effet où la technologie va disparaître. On est à deux doigts de passer à la nanotechnologie, en effet, à la technologie implantée, donc on ne verra plus, à la technologie cachée dans les vêtements. On l'a tous connu, cette dématérialisation, elle a déjà commencé avec le Wi-Fi. Il y a encore 15 ans, on nous aurait dit qu'on serait baigné dans un réseau permanent de données à l'échelle mondiale sans avoir besoin de connecter un seul appareil. C'était de la pure SF. Or, on est tous dedans. Dans le dernier coin perdu de la Garonne, on vit dans la SF maintenant, quoi. Donc c'est j'espère qu'il n'y a pas de gens qui arrivent de là-bas. Il y a vraiment un problème esthétique en effet qui est en train d'apparaître là, qui est que tout ce qui a conduit le mouvement esthétique depuis sans doute la révolution industrielle, depuis, on revient au début de la conférence, mais depuis 1850 où on a les premières expositions universelles, est en train de disparaître. Et en effet, on est sans doute en train d'assister inconsciemment, hein, parce que les civilisations ont une intelligence qu'on ne perçoit pas, qui se passe un peu comme les fourmilières qui sont plus intelligentes que les fourmis. Quoi, voilà.
Je ne suis pas totalement d'accord avec toi, dans le sens où c'est pas une évolution infinie. Je crois que cette fascination pour le virtuel qu'on continue à explorer vraiment jusqu'au dernier moignon, c'est quelque chose qui est apparu vers la fin des années 90. On est à fond dedans, et là qu'est-ce qu'on voit? On voit à nouveau la conquête spatiale qui commence à réintéresser les gens, et donc des machines qui nous y emmènera, et on parle de coloniser Mars, tout ça. Je pense que vraiment il y a eu cette fascination pour les grosses machines, elle s'est stoppée avec l'apparition des outils virtuels. Et cette technologie, on l'a vraiment explorée à fond. On continue à l'explorer à fond. Et on va aller vers une disparition de la technologie à l'échelle humaine. Mais là, une nouvelle fascination commence à arriver. Une refascination, en tout cas.
Je demande à voir. Ça me ferait plaisir. Hein, mais
Alors, une petite question pour Chris Foss en premier. Et peut-être que vous aurez aussi des commentaires à y faire. À propos de représentation graphique, il y a deux grandes parts dans ton œuvre, à savoir la science-fiction avec effectivement les machines, avec les vaisseaux, et les corps humains. Hein. essentiellement féminin, par exemple, donc de jolies femmes peintes dans des positions plus ou moins lascives et autres. Il y a une peinture qui est exposée dans la petite cabine interdite aux moins de 18 ans, où tu m'expliquais que c'était la première peinture où tu avais réuni tes deux passions, à savoir un corps de femme nue et un vaisseau spatial. Alors, j'aurais envie de te demander, finalement, laquelle de ces deux machines aimes-tu peindre le plus ?
Dites la dernière partie encore.
Entre le vaisseau spatial ou la femme.
C'est qui est le plus intéressant pour le moment ?
Pour toi. Que préfères-tu peindre ?
Ah, c'est possible. Maintenant, c'est les femmes. Voilà. Oui. Parce que, au début, j'ai voulu, quand j'étais très jeune, j'ai sorti beaucoup de dessins, les paysages, les trucs comme ça. Mais j'ai voulu être une. J'ai voulu faire en Angleterre la bande dessinée. Et la bande dessinée, ce n'est pas un grand marché en Angleterre. Mais heureusement, quand j'étais très jeune, j'étais pris par Penthouse. Et j'ai commencé à travailler pour Penthouse. J'ai eu 17 ans, je crois. Et j'ai commencé à sortir les bandes dessinées très érotiques. Et j'ai travaillé beaucoup pour eux. Et depuis cette époque-là, c'est un éditeur qui m'a dit, il faut que vous ayez un agent. J'ai trouvé un agent presque le même jour, un grand éditeur qui a spécialisé dans la science-fiction. C'est à cause de ça que j'ai commencé avec les vaisseaux de l'espace. J'ai jamais fait les vaisseaux de l'espace avant ça. Mais j'étais toujours très fixe sur les édits érotiques. Et heureusement, depuis cette époque-là, j'ai sorti une grande bouquin qui a eu une immense influence en Angleterre, dans les États-Unis. On s'appelle The Joy of Sex. C'était un journal qui montre toutes les positions sexuelles, les trucs comme ça. Et on n'a jamais eu un bouquin comme ça. Et depuis ce moment-là, j'ai toujours un petit problème. Soit je marche bien dans la marche de science-fiction, ou soit je marche dans le monde des les titres érotiques. Et les deux, on ne peut pas mélanger. Et maintenant, parce que je suis assez vieux, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup de mélanger les deux métiers. Voilà.
Alors, Chris Foss, prochain invité du Salon de l'érotisme de Nantes, c'est ça ?
Oui, alors, pourquoi pas, avec les femmes moitié nues qui font la présentation, pourquoi pas. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Je regrette qu'une seule chose, c'est qu'on ait eu une table uniquement masculine ce matin à propos de la machine, en même temps qu'il y avait une table ronde sur la salle Hetzel consacrée au féminisme. C'est pour ça que je laisse en conclusion, parce qu'on va s'arrêter là, je laisse cette image de Hans-Rudi Giger qui s'appelle « La machine à naître », parce qu'effectivement, c'est pas du tout misogyne ou sexiste de ma part, mais effectivement, la première machine vivante, c'est une machine à naître et c'est les femmes que tu aimes représenter. Donc merci à vous, merci à messieurs les artistes et puis à très bientôt pour la suite du festival.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.